le 7-10.
Et Léa, ce matin, vous recevez une figure de la mode et de la capitale.
Bonjour Mathilde Favier.
Bonjour Léa.
Merci d'être avec nous ce matin. Si vous étiez un livre, un personnage historique et un vice, vous seriez qui? Vous seriez quoi?
Alors, un livre, je dirais, je le réponds souvent, je serais Les mains du miracle de Joseph Kessel. Je dois vous dire pourquoi.
Dites-nous pourquoi.
Parce que je suis à chaque fois émerveillée par le paradoxe de cet homme qui, malgré lui, soigne et guérit. Et guérit qui? Des criminels de guerre.
Voilà, c'était le masseur de Himmler.
Absolument.
Et qui a...
Qui était le seul à pouvoir le soigner.
Et qui a pu sauver des juifs. On dit, Kessel raconte qu'il a pu sauver des juifs parce qu'il le convainquait, tout en le massant, il avait énormément mal.
Donc, malgré lui, en fait, il était essentiel à soigner et des monstres et Dieu merci des gens qu'il a pu sauver.
Un personnage historique.
Marie Curie. On reste dans le même registre, mais j'aurais adoré, c'est quelque chose que j'aurais adoré. J'aurais adoré être à l'origine d'un vaccin, de quelque chose qui vous soigne, qui vous sauve.
Les médecins toujours.
Oui.
Les médecins souvent chez
vous.
Oui,
parce que c'est les seuls qui m'impressionnent. Sauver une vie, c'est au final, voilà. C'est à peu près l'essentiel, je crois.
Et si vous étiez un vice?
Et si j'étais un vice, ce serait voyeuse.
Ah,
parce que quand on a démarré le projet de ce livre, j'avais une image très jolie de ces avenues qu'on traverse dans Paris, la nuit, l'hiver, où on aperçoit en fait... Voilà, des scènes de vie derrière les fenêtres. On ne sait pas exactement ce qui se passe, si les gens se disputent, si les gens s'aiment, s'ils sont joyeux, s'ils sont tristes, s'ils sont seuls. Et j'adorerais, voilà, percevoir ce qui se passe derrière ces fenêtres.
Ce livre s'appelle Mathilde à Paris. C'est un beau livre où vous célébrez la capitale. Je vais y venir. Mais ma citation du jour, c'est Pierre Drieux-La Rochelle qui écrivait « Toutes les femmes sont sérieuses comme la pluie, surtout les plus frivoles. » Êtes-vous d'accord avec lui?
Oui. Je suis d'accord. Je suis d'accord et je pense que la légèreté et la frivolité font partie de Paris, font partie de la personnalité parisienne. Et je pense que c'est ce qui fait notre charme. Le mot charme, il est très important à Paris. C'est ce qui fait un peu notre identité aussi. Et tout ça, c'est très nécessaire. Dans des temps comme les temps d'aujourd'hui, on a besoin de frivolité, on a besoin de légèreté. C'est très important.
La frivolité, mais aussi le sérieux, puisque vous êtes aussi je vais en parler dans un instant, une femme d'affaires d'une certaine manière, en tout cas une entrepreneuse. Vous êtes une ambassadrice du chic parisien dans le monde, influenceuse très suivie. Vous dirigez les relations publiques de la maison Dior et vous célébrez, qui est un poste très stratégique, je vais en parler, et vous célébrez donc Paris, l'esprit parisien, le bon goût de la capitale dans ce beau livre qui sort chez Flammarion. Mathilde à Paris, en clair, si à Rome fait comme les Romains, à Paris fait comme Mathilde. Ce livre est à rebours du Paris bashing qui domine ces dernières années. Je me suis dit en le lisant que vous en aviez marre, qu'on critique tous les jours la capitale. Au-delà même de Hidalgo, pas Hidalgo, c'est-à-dire, c'est vrai qu'il y a un Paris bashing général. Quoi.
C'est exactement ça. C'est-à-dire que d'abord, je ne suis pas quelqu'un qui me complaît dans la plainte. C'est quelque chose que je fais. Je trouve que ça n'aide rien ni personne. Et en ayant ce livre n'est pas du tout je ne donne aucune leçon et bien au contraire, mais j'ai eu la chance de vivre à l'étranger et je trouve que quand on revient à Paris et j'en parlais avec votre invité juste avant, c'est sublime Paris. Il n'y a pas plus beau que Paris. Ça m'émerveille. Aujourd'hui, je n'habite pas très loin de votre travail. Et le peu de pas que j'ai fait pour venir ici, la lumière de Paris est exceptionnelle. Et c'est de toute beauté. Alors ce livre, c'est pour rendre honneur, c'est plutôt pour faire honneur et rendre hommage à une ville qui est avant tout sublime.
Ouais,
voilà.
On oublie, c'est les étrangers qui nous rappellent combien Paris est belle.
Oui, et d'ailleurs, vous savez, c'est très touchant. Là, j'ai pas mal voyagé pour mon travail. Je suis passée de New York à Venise et la façon dont les étrangers parlent de nous. Alors, j'ai une faculté à conserver ce qui est joliment dit et le beau, mais c'est vrai que c'est très touchant la façon dont on parle de nous.
Ils disent pas qu'on est des râleurs, qu'on est chiant, qu'on est snob.
Ils le disent certainement. Enfin, en tout cas, je l'ai pas entendu, j'ai pas voulu l'entendre, mais je trouve que c'est ça qu'il faut retenir quand même. Voilà.
Ils disent quoi?
Ben, ils disent que c'est beau, ils disent que les femmes sont séduisantes, que Paris est de toute beauté, qu'on y mange bien, que bien évidemment il y a des gens sympathiques. Enfin, ils sont très émerveillés par cette capitale.
Vous rendez hommage à tous les artisans qui font de Paris Paris, le fleuriste Éric Chauvin, les chemises Charvet, la boulangerie Poilane, la chocolaterie Fouquet, le théâtre de l'Atelier, le restaurant Le Voltaire, les puces. Vous rappelez qu'il y a 1180 boulangeries à Paris, 500 fleuristes, que tous les samedis soirs on peut voir 350 films, 300 spectacles, 62 concerts. Mais faut-il forcément de l'argent, beaucoup d'argent, pour vivre à Paris ou pour profiter de Paris ou profiter des adresses que vous donnez là?
Alors, vous savez, tout ça, c'est une question d'âge. À mon âge, je peux vous dire que ça n'est pas une question d'argent. Voilà, je trouve qu'on peut, à Paris, trouver son bonheur. Comme j'ai l'impression, tout ce qui est dit sur les arrondissements de Paris sont des lieux communs. Voilà, Paris, ce qui est important, et c'est important de le rappeler, chaque arrondissement est un petit Paris. Mmh. Voilà, quand vous arrivez...
Paris des petits villages, oui.
Exactement. Si vous arrivez dans le 9e, il y a un petit 9e. Voilà, c'est un petit Paris dans le 9e. Donc oui, on peut tout à fait se débrouiller. Après, je pense que, contrairement à ce qu'on peut imaginer sur cette question d'argent, je pense que ce qui est important, c'est de rechigner et vraiment d'avoir un pif pour la qualité. Le bon petit boulanger, moi je suis capable d'aller très loin dans Paris pour le trouver. Il n'est pas du tout dans les beaux quartiers. Il est, alors il y en a des très bons aussi, mais il est dans le 20e, il est dans le 19e. Mais pourquoi ? Parce que ces artisans... se donnent du mal, persistent et font que voilà, ils travaillent à l'ancienne. Il y a encore un des derniers fours à bois existe dans le 19e, four à pain, ouais. Mais qui cuit au feu de bois, et je vous donnerai l'adresse, il est magnifique.
Ouais. Mais c'est ça aussi qu'on lit dans votre livre, c'est-à-dire ce n'est pas uniquement les adresses chics, il y a de tout, il faut aller voir, et c'est ça que j'ai aimé. De Diane de Poitiers à Gabrielle Chanel en passant par Marie-Antoinette, la Parisienne a toujours dicté le bon goût, les canons de beauté. Il y en a une qui est considérée aussi comme le chic de la Parisienne, c'est Inès de la Fressange. Mmh. Écoutez ce qu'elle disait dans les années 80, quand elle bossait avec Karl Lagerfeld sur la Parisienne, que c'est souvent une provinciale ou une étrangère. Écoutez.
Vous êtes habillée, en fait, vous, par un homme, Karl Lagerfeld, mais donc vous avez la lourde tâche d'assumer l'image de la Parisienne. Vous vous incarnez totalement dans la Parisienne?
Non, d'abord, c'est pas une tâche lourde. Et puis, je ne suis pas supposée à incarner la Parisienne. La Parisienne, c'est beaucoup de choses, c'est beaucoup de gens. Je crois que la Parisienne, c'est souvent des étrangères ou des femmes qui viennent de la province et qui aiment Paris.
Vous êtes d'accord avec elle ?
Je suis complètement d'accord avec elle. Et d'ailleurs, je trouve que la Parisienne, c'est une nationalité. Mmh. Voilà. J'ai des copines, des gens que je connais qui sont étrangers et qui sont devenus parisiens. Donc je suis complètement d'accord avec
vous. Vous citez d'ailleurs dans le livre Sacha Guitry, être parisien, ce n'est pas être né à Paris, c'est y renaître.
Absolument.
C'est très beau.
Voir, y renaître, absolument, parce que c'est pas forcément parce qu'on y est né qu'on est parisien.
Vous écrivez dans votre livre, j'ai eu la chance très jeune de connaître un monde qui n'existe plus. Quel est ce monde ? Et trouvez-vous aujourd'hui, Mathilde Favier, l'époque violente, trop vulgaire, ou ça va ? C'était pas forcément mieux avant ?
Alors. Je suis pas quelqu'un qui est dans le c'était forcément mieux avant. Là, j'ai voulu insister sur des endroits qui ont fait mon enfance et qui finalement m'ont fait moi. Je trouve juste ce qui est important, et c'est important de le rappeler. Je le rappelle souvent à mes enfants. Je pense qu'il faut apprendre à privilégier encore une fois la qualité à la quantité. Et je pense que par exemple à Paris, il y a une éclosion de nouveaux endroits qui ouvrent très fréquemment et très souvent. C'est formidable, tant mieux, ça veut dire qu'ils se donnent de la peine et qu'ils prennent le risque d'ouvrir. Mais j'aimerais qu'on privilégie ce qui est beau et bon. Voilà, j'insiste là-dessus parce que je pense que c'est ce qui fait le fleuron de notre ville, et que peu importe que un restaurant soit grand, que n'importe quel.
Oui, les nouveaux restaurants où la musique est au maximum et les assiettes sont carrées. Alors vous avez un problème avec les assiettes carrées.
J'ai un problème avec l'assiette carrée, la verrine. J'ai un problème avec ce genre de petits détails qui pour moi ne sont pas des détails. Le détail est important, il fait partie de la vie à Paris aussi. Ouais. Ouais.
Et l'assiette est ronde.
L'assiette doit être ronde, oui. En fait, si on pouvait conserver la grande simplicité, En fait, tout ce qui est simple, c'est finalement toujours ce qu'il y a de plus compliqué à faire. Même en cuisine, quand on cuisine une omelette, elle est difficile à faire. Et ben, s'il vous plaît, juste soyons, restons simples.
Voilà. La seule chose qu'on voit, c'est ce qu'on voit dans votre livre. C'est très raffiné, c'est élégant, mais c'était simple. C'est simple également. Vous êtes aujourd'hui directrice des relations publiques de la plus grande maison de couture française, Dior, fleuron d'LVMH, chiffre d'affaires annuel de plus de 20 milliards d'euros. C'est colossal. On dit que vous avez le meilleur carnet d'adresses de Paris. De Paris, je dis de Paris, mais je pourrais dire du monde, puisqu'aujourd'hui, les égéries étrangères, les gens avec qui vous traitez, vous passez votre temps à voyager, c'est à l'étranger. La mode, le goût, vous le devez beaucoup à un homme qui est présenté au début du livre, c'est votre oncle Gilles Dufour, personnage proustien, proche de Nourrieff, meilleur ami de Catherine Deneuve. Il a été le bras droit de Lagerfeld chez Chanel pendant des années. C'est lui d'ailleurs qui va vous faire faire votre stage chez Chanel à 14 ans, où vous découvrez une autre petite stagiaire qui est là, qui fait son stage chez Chanel, c'est Sofia Coppola, qui devient votre copine.
Oui.
Vous allez même avoir un petit rôle, une apparition dans Marie-Antoinette. Votre oncle a été une figure capitale pour vous ?
Oui, il a été et il est très important. Mon oncle est le petit frère de ma mère. Il est tout aussi important d'ailleurs que ma mère, que mes sœurs, que ma famille. La seule chose, c'est Gilles a donné le ton en fait à ma vie dès le départ, puisqu'il a travaillé pendant donc près de 17 ans auprès de Karl Lagerfeld, et que c'est vrai d'avoir eu la chance, grâce à lui, d'avoir connu quelqu'un comme Karl si jeune, ça met la barre assez haut quand même. Voilà.
Je voulais vous faire écouter, Mathilde Favier, une archive de Christian Dior qui évoque la création, le travail des milliers de petites mains pour réussir une collection. Écoutez, on est en 1953.
Qu'est-ce que la création ?
Oh, la création, ma chère Lise, c'est un ensemble de mille et une choses. C'est mille et un métiers qui se groupent autour du couturier. Il y a des fabricants de tissus, les soieries de Lyon, les lainages du Nord, les dentelles, les petits métiers d'artisans, les bijoux, la fantaisie, les sacs, les gants, les colis fichés. Chacun apporte son tribut à l'œuvre collective qui est la mode de Paris. Nous sommes un commerce qui fait vivre des centaines de métiers, qui fait vivre des milliers d'ouvrières qui travaillent un mois et demi durant, sans relâche, le jour, toute la journée, parfois même la nuit. Il y a des mannequins qui posent des heures entières pour les modèles que porteront plus tard nos clientes et qu'acheteront tous les meilleurs magasins du monde, ceux qui ont vraiment le souci de la mode élégante plus que du business. Et puis, je ne veux pas oublier toutes les vendeuses, le travail des secrétaires, des livreurs, des emballeurs, des standardistes, des grooms et de tout ce peuple laborieux et adroit qui participe aussi au rayonnement de la couture française à travers le monde.
C'est beau, hein ?
Merveilleux. Merveilleux d'entendre sa voix. Vous avez vu comme il avait une voix désuète et charmante.
Désuète et charmante, exactement.
Ouais.
Le rayonnement de la mode française. C'est vrai qu'au moment où on ne parle que du déclassement de la France, qu'on perd de l'influence dans le monde, que ça va pas bien, qu'on n'est plus qu'une puissance moyenne, il y a un secteur où on a encore la référence, c'est la mode, c'est le luxe français. On reste numéro un. Ouais. Comment vous l'expliquez ?
Je l'explique parce que je pense encore, vous voyez, j'insiste encore, je pense que la qualité, la rareté qui font le luxe, ça nous appartient. Ça reste quand même, je trouve que ça reste une notion tout à fait française. La mode, elle existe bien évidemment, la Fashion Week existe aux États-Unis, elle existe en Angleterre,
à
Londres, à Milan. Mais il n'y a rien à faire. La Fashion Week française, à Paris, il n'y a rien de comparable.
Oui, on avait Victoria Beckham il y a 3 semaines qui expliquait que, alors qu'elle faisait défiler ses collections à Londres, quand elle a eu le droit de défiler à Paris, pour elle, c'était le Graal absolu.
Oui, parce que je pense aussi que le raffinement français et le sens du détail, c'est quelque chose de français.
Et les petites mains dont parlait Christian Dior.
Les fameuses.
Aujourd'hui, quand je dis que vous êtes directrice des RP chez Dior, c'est-à-dire que vous êtes une pièce centrale de la réussite de Dior, Mathilde Favier. C'est un poste stratégique, parce qu'il y a des enjeux économiques majeurs. Non, mais je voudrais expliquer clairement aux auditeurs ce que c'est votre métier. Ça veut rien dire, directrice.
Il ne veut rien dire. Ouais, c'est un titre qui ne veut absolument rien dire.
Par exemple, quand Dior lance un nouveau sac ou une nouvelle collection, c'est vous qui allez décider quelle va être la star qui va incarner ce nouveau produit. Et il faut savoir que la concurrence avec les autres, avec Chanel, avec Saint Laurent, c'est hyper violent. Et qu'il faut que vous décrochiez la star, parce que dès décrocher une star pour un sac, c'est l'assurance d'en vendre 500 millions ensuite, c'est ça votre
Alors,
métier.
D'abord, c'est pas moi qui décide. Hein. Ça, j'insiste bien sur ce point. Comme disait Christian Dior, on est une équipe et on travaille en équipe. Moi, j'ai la chance de travailler pour Olivier Bialoubos, qui évidemment donne le ton d'une façon remarquable. Et c'est vrai que on avance et on travaille ensemble. La mauvaise personne qui porte le bon sac, c'est un problème.
Ouais.
Voilà.
Et aujourd'hui, Mathilde Favier, pour que les gens comprennent aussi, la mégastar la plus recherchée du monde, c'est plus les actrices. C'est plus l'actrice hollywoodienne. Ben non. Oui, il y a Nathalie Portman et Rihanna. Mais aujourd'hui, la plus grande star, celle dont Vogue a titré la star la plus attendue de la Fashion Week parisienne, eh bien, les auditeurs ne vont pas connaître son nom. Elle s'appelle Jinzoo. Elle fait partie d'un groupe de pop coréenne, la K-pop, et c'est elle que vous avez chopé, les Blackpink, et c'est elle qui est une des égéries Dior, en tout cas qui était là chez Dior, et ça, c'est aujourd'hui, est-ce que ça vous sidère pas qu'aujourd'hui vous alliez chercher Jinzoo ou une influenceuse qui a rien fait de sa vie d'une certaine manière, qui deviennent les plus grandes stars?
Vous savez, en fait, il faut, et je pense que c'est un plus de Dior, il faut être à l'écoute de son temps et il faut être un peu en avance sur ce qui va se passer. Jisoo, c'est une jeune fille coréenne exquise qui a 30 ans, qui est vraiment à l'origine d'un phénomène, effectivement,
la K-pop. Tous les jeunes deviennent fous, hein, en
oui,
France.
Oui, je peux vous dire que quand elle m'a dit, moi, à la sortie d'un défilé, est-ce que je peux aller dire bonjour à mon public, et que je pensais qu'elle allait dire bonjour à, effectivement, 10 personnes, et que je me suis retrouvée devant un public qui était plus important que celui des Beatles, j'ai compris que on vivait un phénomène. Voilà, j'ai compris l'importance de son influence dans le monde.
Il nous reste une petite minute.
Déjà
oui, malheureusement, ça passe vite. J'avais plein de questions encore à vous poser sur la mode.
On continuera.
Un mot très rapidement, vous répondez. C'est les impromptus. Meryl Streep, pourquoi c'est une des rencontres les plus marquantes de votre vie?
Parce que c'était une des femmes les plus intelligentes que j'ai jamais rencontrées. J'ai rarement vu une simplicité pareille sur une telle star.
Gabrielle Chanel disait « Le luxe n'est pas le contraire de la pauvreté, c'est le contraire de la médiocrité ». Vous êtes d'accord?
Totalement.
Azdine Alaïa disait qu'il ne fallait pas, il ne faut pas montrer ses jambes et ses bras après 40 ans. Vous êtes d'accord?
Malheureusement, oui.
Ah bon? Il ne faut pas montrer ses bras et ses jambes?
Non, je trouve qu'on fait beaucoup de progrès là-dessus et que les femmes peuvent gagner, on va dire, un bon 10 ans.
Voilà.
Mais je me demande si
Mathilde Cérel qui vient de rentrer en t-shirt, c'est fini Mathilde. Parce que malheureusement vous avez plus de 40 ans.
Je trouve qu'elle s'en sort pas mal.
Beaucoup de sport, beaucoup de basket.
Ça se voit.
Rétablir l'uniforme à l'école, c'est une bonne idée?
Oui. Oui. Moi je trouve que oui.
Vous dites, je suis née avec une oreille sourde, ma solitude et ma force sont là.
Oui, elle est ma grande amie.
Elle est votre grande amie?
Oui.
Vous avez eu un cancer Mathilde Favier, vous ne l'avez pas dit?
Absolument.
Pourquoi?
Parce que, est-ce que j'aurais forcément été plainte? Pas forcément non plus. Et donc, non, je ne l'ai pas dit, j'en ai parlé après. Et d'ailleurs, j'ai donné je suis fière d'offrir les droits de mon livre à l'Institut Raphaël, voilà, qui a été créé par le professeur Alain Toledano et qui m'a soignée. Et donc, je suis fière de le faire pour lui.
Le Fleur ou les deux Magots? Très rapidement.
Les deux Magots.
Yves Saint Laurent ou Karl Lagerfeld?
Les deux.
Jacquemus ou Rostin?
Jacquemus.
Elle ou Vogue?
Les deux.
Anna Wintour ou Karine Rothfeld?
Les deux.
Cécilia Sarkozy ou Carla Bruni?
Les deux.
Ah, dis donc.
Ah si.
Elle prend pas de risque.
Ah, mais je fais bien mon métier.
Musée d'Orsay ou le Louvre?
Je passe plus de temps au musée d'Orsay qu'au Louvre.
Instagram ou TikTok?
Instagram.
Aya Nakamura pour les JO, c'est bien?
Oui, c'est bien.
Liberté, égalité, fraternité, vous choisissez quoi?
Les trois.
Et Dieu dans tout ça?
Et Dieu, j'y crois.
Mae West disait « Je ne suis pas belle, je suis pire ». Paris, c'est pareil, c'est comme ça que vous vendez votre livre. Mathilde à Paris, c'est aux éditions Flammarion. Merci beaucoup Mathilde d'avoir été avec nous.
Belle journée à vous. Merci, bonne journée, bon lundi.
Merci.